Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, M comme Ménégoz, Margaret Ménégoz, autoportrait en productrice avec elle-même et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Quel point commun entre la fine fleur de la Nouvelle Vague, Éric Rohmer, Barbet Schroeder et Jacques Rivette et leurs héritiers Jean Eustache, Jean-François Stévenin, Jean-Claude Brissot, Romain Goupil et Jacques Doyon, entre les jeunes cinéastes allemands des années 70, les Werner Schroeter, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder et leurs cousins polonais Andrzej Wajda et Agnieszka Holland, entre les films en costume d'un metteur en scène de théâtre Roger Planchon et les mises en scène implacables du bipalmé Michael Haneke, leurs films, tous entrés dans l'histoire du cinéma, sont audacieux et pourtant ils ont tourné et pour beaucoup tournent encore grâce à une femme de l'ombre, tout à la fois gouvernante, fée du logis, intendante et bonne à tout faire, comme elle aime se décrire avec malice, qui depuis 1976 gère en bonne mère de famille les films du Losange, la plus ancienne des sociétés de défense et illustration du cinéma d'auteur véritablement indépendante en France, Margaret Ménégoz, née dans la minorité souabe de Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale, réfugiée en Allemagne puis installée en France par les hasards de la vie et donc européenne avant tout, se plaît aussi à se décrire en paysanne prudente et patiente qui compose avec les circonstances et attend que ça pousse, ne cherche pas tant le succès que de ne pas dépenser l'argent qu'elle n'a pas et de bien investir celui qu'elle a. Résultat, non seulement le plus beau catalogue qu'on puisse rêver, mais de multiples récompenses dans le monde entier, des Césars et des Oscars à ne plus savoir où les ranger, un Lion d'or à Venise et deux palmes du même métal à Cannes et un prix France Culture consécration pour l'ensemble de son œuvre décernée il y a un mois sur la Croisette. Margaret Ménégoz est aujourd'hui dans Plan Large pour un autoportrait en productrice à partir de quelques films qu'elle a choisis elle-même dans son riche catalogue. À ses côtés, Ntebin qui en fin d'émission nous parlera de l'œuvre du grand documentariste distribué en salle par les films du Losange, évidemment, Nicolas Philibert, qui fait l'objet d'une intégrale restaurée en coffret DVD. Mais pour l'instant, retour à Ansbach, en Bavière, il y a quelque 44 ans.
Vater! Mein Vater! So öffne sie doch!
Dass er dich nicht sehen will.
Mein liebster Bruder. Mein teuerster Vater.
Was?
Mein Vater, so hören Sie mich doch an.
Bonjour, Margaret Ménégoz.
Bonjour.
Vous êtes évidemment parfaitement germanophone, vous avez donc reconnu cet extrait.
Oui, la marquise d'O, Edith Kleber, avec son papa dans le film Peter Lure, qui ne veut pas entendre qu'elle ne sait pas de qui elle est enceinte.
Voilà, et elle est donc bannie de chez elle, le père tire un coup de feu, la mère s'évanouit, grand prix spécial du jury à Cannes en 1976. Rohmer n'était pas là le jour du palmarès, il était à Ansbach en Bavière justement, et il remerciait les habitants de cette bourgade pour leur hospitalité. Margaret Ménégoz, ça fait à peine quelques mois que vous avez été engagée par Barbet Schroeder et Éric Rohmer en 1975, hein. C'était pour ouvrir le courrier je crois et répondre au téléphone dans la société qu'ils avaient fondée en 1962.
Et payer les factures.
Et payer les factures, ce qui n'est pas rien dans une société de production. Et puis il se trouve que vous parlez allemand, donc Eric Rohmer vous dit ben, « Jetez donc un coup d'œil au scénario du film que je m'apprête à tourner, La Marquise d'Eau d'après Kleist ». Et puis, comme déjà à l'époque, ben, vous avez l'habitude de dire ce que vous pensez, vous lui dites que vous ne trouvez pas ça très bon.
Oui, parce que c'était fait par dans les chaînes de télévision allemande existe un poste qui n'existe pas en France, Dieu merci, qui s'appelle les rédacteurs, qui travaillent étroitement avec les acteurs et il faut passer sur leur fourche caudine et qui réécrivent, discutent des scénarios. Et j'avais trouvé la nouvelle de Kleist très drôle. C'est une comédie en fait. Qui apparaît au début tragique, mais finalement c'est une comédie. Et c'était sinistre le scénario. Donc j'ai dit ça à Eric, j'ai trouvé que c'était mieux de revenir au texte d'origine de Kleist, parce qu'une nouvelle, c'est adapté à la durée d'un film. Un roman, c'est très compliqué de l'adapter au cinéma, mais la durée d'une nouvelle, ça va. Et ça va mieux. Et donc, il m'a regardé, il m'a écouté, et puis il m'a dit, vous savez ce qu'on va faire, on va aller à Berlin, on va voir les acteurs. Tous les acteurs travaillaient à la Schaubühne à Berlin, qui était un des théâtres les plus célèbres, qui est toujours très célèbre.
C'était Peter Stein à l'époque.
Oui, Peter Stein.
Qui dirigeait.
Et Bruno Ganz, Edith Kleber, Otto Sander travaillaient à la Schaubühne. Donc, on les a réunis à Berlin, on est allé les voir, et Rohmer leur a demandé comment ils trouvaient le scénario, est-ce que c'était pas mieux de revenir au texte de Kleist. Ils étaient enthousiastes. Donc Rohmer a refait le scénario, parce que la nouvelle est écrite comme un scénario. Il dit, la marquise regarde son père, se tourne vers sa mère et dit. Donc c'est une description de mise en scène. Et voilà, donc il a réécrit le scénario et on est parti tourner près de Nuremberg, dans cette Bavière étrange où il y a des gros, gros villages, des petits champs de vignes parce que c'est un vin de Franconie, donc très, très bon. Et on y a passé 2 mois et demi.
À partir de là, vous allez prendre du grade au film du Losange. Hein, vous allez vite en devenir la gérante. Mais alors, pour parler précisément de votre travail avec Rohmer, comment est-ce qu'on travaillait avec Eric Rohmer, qui avait cofondé les films du Losange avec Barbet Schroeder, donc qui était le patron, lui aussi, qui avait presque son autonomie au sein de cette structure. Il y avait la compagnie Eric Rohmer, qui était qu'il avait créé. Comment est-ce qu'on travaillait avec Rohmer, sachant que, et on avait fait un plan large au début de l'année sur Eric Rohmer, on rappelait que c'était quand même sans doute le cinéaste français le plus rentable de son époque, puisqu'il adaptait parfaitement ses budgets au public qu'il pouvait avoir, et donc régulièrement il faisait un grand succès. Ben, par exemple, La Marquise d'Eau, c'est quand même 300 000 spectateurs pour l'époque, le Rayon Vert, enfin autant de films, je crois que 8 millions de spectateurs au total pour ces 25 longs métrages, sans compter les spectateurs étrangers qui étaient aussi très nombreux. Alors vous réussissiez à avoir un dialogue de productrice à cinéaste avec Rohmer?
Je ne sais pas si c'est un dialogue de productrice à cinéaste, mais en fait la base du travail, c'est d'écouter attentivement le metteur en scène et de régler les problèmes pour qu'il puisse faire ce qu'il a projeté de faire. Et c'était ça la collaboration. Je ne suis pas auteur, je ne suis pas metteur en scène, j'ai aucun sens de la géographie, et pour faire de la mise en scène, il faut avoir un sacré sens de la géographie, de la situation des personnes dans un espace. Et donc j'attendais qu'il ait besoin de quelque chose et je faisais en sorte qu'il ait ce dont il a besoin. Il m'a appris beaucoup de choses parce qu'il avait un grand sens inné de l'économie du cinéma. Il trouvait que la seule liberté d'un auteur était dans son succès. Et donc, il fallait adapter le budget du film à la possibilité de recettes qu'il avait, parce que si vous avez pas de liberté, vous devez travailler à façon pour des producteurs ou des distributeurs ou des chaînes de télévision, etc. Et ça, c'est une règle de base, de savoir que la liberté d'un créateur vient de son succès.
Ntebine.
Oui, moi, ce qui me fascine dans votre collaboration, mais aussi dans la carrière de Romer, c'est que son idée, c'était quasiment de faire un film par an, quoi qu'il arrive. Et alors, il est surtout connu aujourd'hui pour faire des films qui se passent en France, parfois même à Paris, très intimistes, etc. Puis tout d'un coup, film historique, reconstitution, décor.
Perceval le Gallois.
Voilà, mais il continue. C'est quasiment un film par an. C'est comme une sorte de modèle. Il y en a comme ça quelques-uns. Il y a Woody Allen aux États-Unis. Il y a eu Robert Guédiguian à un moment. Enfin, parce que ce sont des metteurs en scène qui sont responsables, en fait, je pense.
Pour son succès à l'étranger, on a compris une chose. Plus un film, une histoire, des personnages sont enracinés dans un pays, plus ils sont aimés à l'étranger. Il faut pas faire des histoires qui se passent en Amérique, il faut faire vraiment des histoires franco-franco-françaises. Son grand succès aux États-Unis sur pratiquement tous ses films, pas tous, parce que la vie d'un cinéaste, c'est des succès, des petits succès, des grands succès, des échecs et des moyennes, etc. Mais ça a fonctionné parce qu'en fait, les sentiments sont intemporels et parce qu'ils sont profondément enraciné en France. C'est un des seuls cinéastes que nous pouvons, encore aujourd'hui, vendre régulièrement à la télévision dans les pays du Golfe, par exemple.
Je croyais pouvoir freiner la tempête de la Révolution. Je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort. Ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais me serais-je trompé? Me serais-je trompé? D'autres que moi pensent différemment. Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Tu disais-vous qu'il fallait du sang, que le peuple voulait du sang. Menteur, mensonge, mensonge. C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi. Le peuple ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de sang qui est le tien.
T'entends, tu t'es trahi. Trahi! Seul un comploteur, un ennemi du gouvernement, peut insulter ainsi le tribunal du peuple.
Le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux. C'est le gouvernement.
Contre-exemple total par rapport à ce que vous venez de dire, Margaret Ménégoz, il faut faire des films chez soi et c'est comme ça qu'on touche le monde. Ici, c'est le Danton de Vaïda, film tourné en France avec des acteurs français et polonais. Il y a deux versions originales du film. Nous, on a choisi la française avec la voix de Depardieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film et pourquoi est-ce que ce film qui aurait dû être tourné en Pologne par Vaïda est devenu un film français ? Prix Louis de Luc, 1982, en fait, César du meilleur réalisateur.
C'est une histoire française, bien sûr, mais qui passionnait le Vaïda pour la Pologne. Parce que c'était si vous voulez, en France, dans les livres de l'école, des histoires, les héros de la Révolution, le pur, le ascète, les génies de la Révolution, c'était Robespierre. Et il y a une pièce de théâtre écrite par une auteure polonaise qui raconte...
Stanisława Bezibiszewska.
Et elle raconte que le monde entier aurait été différent si Danton avait gagné contre Robespierre. Que le moteur, le sage de la Révolution était Danton et pas Robespierre. Donc ça intéressait beaucoup Vaïda, cette histoire. C'était prévu d'être tourné, bien que ça se passe en France, à Cracovie, en Pologne, qui est une ville presque entièrement construite par des architectes européens, italiens, ouest-européens, italiens surtout. Et est arrivé l'état de guerre, et les frontières ont été fermées. Il n'y avait pas Internet à l'époque, on parle de 1980. Pas de téléphone, pas de vol, pas de train, frontières fermées. On était en fin de préparation du film, et coupé complètement. Et j'étais désespérée, comme je supposais que Vaïda, à Varsovie, l'était aussi. Et je savais pas quoi faire. Et le traducteur d'Ange Vaïda, Michel Lisowski, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, demander un visa. Il avait raison. J'ai demandé un visa. Lui ne l'a pas obtenu parce qu'il était polonais, le traducteur. Mais moi, j'ai pu partir par Rome avec un avion qui était quasiment vide. Il y avait quelques prêtres et un petit groupe de bonnes sœurs dans l'avion et moi. Et je suis arrivée à Varsovie, les hôtels fermés, de l'hôtel où j'allais d'habitude, qui faisait 10 étages. Il y avait juste au premier étage, où on était 3 personnes, 2 Africains et moi. Et j'ai vu Vaïda, et j'ai dit, la seule solution, c'est d'amener le tournage en France. Ça va être compliqué, parce que, par exemple, le lieu de l'exécution de Danton, c'était la place de la Concorde, qui était une fausse place parce qu'il y avait que les 2 immeubles, le Crillon et le ministère de, actuellement, ou plus maintenant, de la Marine. Et il n'y avait pas l'obélisque, bien sûr, puisqu'il était amené par Napoléon. Il n'y avait pas les fontaines, il n'y avait pas les statues des villes autour. Il me dit, mais ça fait rien, on va cacher tout ça avec des figurants. En France, en Pologne, ça coûte presque rien d'engager des figurants. Les gens viennent avec plaisir faire la figuration pour un auteur de la réputation de Vaïda. Et j'ai dit, ça va pas être possible. Enfin bon, première nécessité de le faire sortir de Pologne. Donc on a intrigué beaucoup. Et on a réussi. D'abord, on a réussi à faire sortir la fille de Vaïda, puis Vaïda et son épouse elle-même. Et puis, on a travaillé, on a tourné le film en France.
On raconte que la projection de ce film en avant-première à la Cinémathèque française devant tout le gouvernement français, François Mitterrand, Jack Lang, Jean-Pierre Chevènement et autres éléphants de l'époque, c'était pas très bien passé. Qu'il y a eu quelques les brouhahas qu'on a entendus à la fin du discours du Danton étaient presque les mêmes dans la salle.
Ben oui, parce que si vous voulez, ça contredisait complètement l'opinion répandue, mais pas seulement dans la gauche française en général, que Danton, c'était un traître, un soulard, un mangeur, un goinfre, un coureur de filles, et que des héros de la Révolution, pour eux, tous étaient Robespierre. Et la scène que nous venons d'entendre, c'est une scène où Danton fait sa défense lui-même devant le tribunal révolutionnaire et il va perdre la voix. Et c'est ça qu'il a perdu. C'est comme ça qu'il était... Parce que quand il parlait, c'était un tel orateur, contrairement à Robespierre qui était un orateur très médiocre, quand Danton parlait, vous avez entendu l'enthousiasme du public dans la salle du tribunal. Mais il a perdu la voix. Il a parlé longtemps, il a perdu la voix, et comme ça, ils avaient les mains libres, ils l'ont condamné parce qu'il ne pouvait plus parler.
J'ai eu un peu peur tout à coup, peur que tu sois plus là.
Là-bas, j'arrivais presque plus à penser à autre chose qu'à toi. Je tournais en rond, j'allais au téléphone. Tout le monde m'était indifférent. Ma mère à moitié morte et défigurée par la souffrance. Même mon père et même mes frères. J'arrive plus à me passer de toi. Flingue ta femme à la porte.
C'est pas possible.
Alors quitte-la. On vivra chez moi. C'est pas grand, mais on déménagera si tu veux.
C'est pas possible.
À cause du lycée?
Tu as 17 ans.
Et alors?
Dans 10 ans, je serai déjà un vieillard.
C'est quand tu me parles comme ça que tu l'es. De toute façon, tu connais beaucoup des couples qui durent longtemps. Regarde autour de toi. C'est toi que j'aime. Que tu sois âgé, gros, maigre, malade, vieillissant, n'y changera rien. C'est profond en moi. De toute façon, où on sera dans 10 ans? Mort si ça se trouve. Toi? Ou moi? Je t'aime comme j'ai jamais aimé. C'est toi qui as fait de moi une femme. Mais tu vois pas que je te supplie?
Vous écoutez France Culture, Plan Large sur et avec Margaret Ménégoz. Vous aurez peut-être reconnu un extrait de Noce Blanche, un de vos grands succès comme productrice. Il faut rappeler que Jean-Claude Brissot, qui a disparu il y a un mois dans une certaine opprobre dans l'autoproduction, dans la misère, fut un temps une valeur sûre du cinéma d'auteur français. Noce Blanche en 1989, je crois que c'est le deuxième succès français de l'année après Trop belle pour toi de Bertrand Blier, près de 2 millions d'entrées. C'est Romère qui avait découvert et qui avait amené Brissot au film du Losange, Margaret Ménégoz.
Il y avait, c'est un hasard aussi, il y avait une salle de cinéma dirigée par Frédéric Mitterrand qui s'appelait L'Entrepôt. Et Romère est allé souvent, on allait souvent au cinéma. On arrêtait de travailler, on fermait le bureau, on allait au cinéma, on discutait cinéma. Contrairement à aujourd'hui, on discute
parle que de
nombre d'entrées, argent, stratégie, voilà. Donc Romère va à L'Entrepôt et comme souvent il se trompe de porte, de salle.
Il est un peu distrait.
Distrait. Et il voit un film de Jean-Claude Brissot. Et évidemment, les caissières disent à Jean-Claude, Romère est venu voir votre film, etc. Il a appelé. Et comme je ne le connaissais pas, ni ce film, donc je suis allée parler à Romère. Il m'a dit, vous devriez jeter un œil quand même à ce garçon. Qui était une armoire, qui était très grand, large, costaud, etc. Et puis on s'est vu, et puis il avait le scénario de Noce Blanche. Mais on a commencé par faire un premier film avec un pré-pellicule et laboratoire de Lina, qui s'appelait La vie comme ça, qui était une histoire de harcèlement dans un bureau, la mise à l'écart d'une jeune femme, Lisa, qui est devenue son épouse. Voilà, donc après une chose l'autre, on a fait Jeu brutal, De bruit et de fureur, qui était pas des grands succès. Il racontait qu'est-ce qui se passait en banlieue à l'époque. Tout le monde l'ignorait, on voulait pas croire qu'il y avait des tournantes dans la cave des HLM de banlieue. Et donc après il est venu, des films d'après c'était Noce Blanche. Et il avait l'idée du casting. Au départ, c'était toujours Bruno Kremer, mais pas Vanessa Paradis. C'était une jeune actrice...
Charlotte Valandré.
Charlotte Valandré. Et nous étions à l'époque... c'est aussi un film que nous avons distribué. Un des premiers films que nous avons produit et distribué. Et mes anciens distributeurs chez Gaumont... Le programmateur des salles me dit, dites-lui d'aller voir, il y a une petite chanteuse absolument formidable, elle pourrait être le personnage, s'appelle Vanessa Paradis. Comme je ne connais pas bien la variété des chansons, je dis ça à Jean-Claude qui râle, qui dit non, écoutez, j'ai autre chose à faire que de courir les petites chanteuses et tout ça. On l'a convaincu, je l'ai convaincu d'aller finalement la voir, et elle est revenue très troublée en disant « c'est le personnage ». Et voilà. Donc c'est Vanessa Paradis, son premier rôle au cinéma, qui n'était pas majeur à l'époque, et qui a été magnifique dans le rôle.
Elle a eu un César.
Elle a eu un César de la meilleure révélation. On entend dans cet extrait, tu en connais beaucoup, des couples qui durent longtemps. Un couple productrice-réalisateur, ça ne dure pas toujours longtemps. Dans le cas de Jean-Claude Brissot, par exemple, il n'y a pas eu d'autres films après Noce Blanche. Qu'est-ce qui fait, indépendamment du cas précis de Jean-Claude Brissot, qu'à un moment, une relation se brise entre un cinéaste et une maison de production?
Quand la confiance s'en va. Si vous voulez, quand Noce Blanche, et après la sortie de Noce Blanche en France, il a tourné dans le monde entier. Brissot a beaucoup voyagé avec son film. Et en même temps, voyager un film de Luc Besson, qui était distribué par Gaumont, avec tout un staff autour de Luc Besson, des attachés de presse, Et il avait envie de ça, Jean-Claude. Donc, il a fait son film d'après avec Gaumont.
Céline.
Oui. Et on ne s'est jamais retrouvés. Peut-être je me suis... on a perdu sa confiance. Le travail entre un producteur et un metteur en scène est basé sur la confiance réciproque. Et ce n'est pas quelque chose qu'on obtient une fois pour toutes. Ça se gagne tous les jours et réciproquement. Et il avait des ambitions de grand auteur à succès populaire. C'est tout à son honneur. Mais il trouvait que j'étais trop... Arrêtez, trop petite boîte, voilà.
Bess McNeil, for many years you've prayed for love. Shall I take it away from you again? Is that what you want? Oh, no. I'm still grateful for love. What do you want then? Pray for Jan to come home. He will be coming home in 10 days. You must learn to endure. You know that. Oh, I can't wait. This is unlike you, Bess. Out there, there are people who need Jan and his work. What about them? They don't matter. Nothing else matters. I just want Jan home again. I pray to you. Oh, please, won't you send him home? Are you sure that's what you want? Yes.
Dialogue entre une jeune femme et Dieu dans la voix d'Emily Watson, c'est Breaking the Waves de Lars von Trier, grand prix du jury au Festival de Cannes en 1996. Alors il y a les succès inattendus, il y a aussi les ratages, les films qu'on refuse sur scénario et qui se révèlent de grands films ensuite. Alors Lars von Trier, ça a été le cas pour Breaking the Waves, mais vous l'avez quand même distribué. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce film, Margaret Ménégoz?
Eh bien, les producteurs danois nous avaient envoyé le scénario. On a lu et on a trouvé, j'ai trouvé que cette histoire de cette jeune femme qui fait la pute sur les bateaux, comme on va prier à l'église, c'était pas possible. C'était trop les croyances nordiques, la religion sévère, ça me convenait pas du tout. Donc on a dit, j'ai dit non. Et puis ils ont fondé leur propre société de production en France pour coproduire avec eux-mêmes. Et quand le film était fini, ils nous l'ont envoyé. C'était pas rancunier. Parce qu'en fait, économiquement, c'était une bonne chose pour eux de coproduire avec eux-mêmes. C'était une maison, une caisse, un porte-monnaie, voilà. Et on a, comment, avec Régine, qui était en charge...
Régine Vial, qu'on salue de l'autre côté de la vitre du studio.
Qui était en charge de la distribution en France, qui a distribué Noce Blanche, le film que nous venons de parler, et qui a distribué également tous les films produits par le Losange depuis. On a regardé le film au bureau, ils nous avaient envoyé, à l'époque c'était des grosses cassettes bêta, et puis les portes étaient ouvertes et les téléphones n'étaient pas fermés, alors parce que c'était là depuis 8 jours sur le bureau, donc on a dit absolument il faut y aller, il faut qu'on regarde. Et quand on est arrivé à la noce, la scène après la noce, quand le couple se retrouve dans une chambre, on s'est dit, il y a quelque chose. On a fermé les portes, décroché les téléphones et on a regardé le film très sérieusement et on a trouvé magnifique cette histoire. Et j'ai eu un contact avec Lars un peu avant pour Europa parce que j'étais membre du jury au Festival de Cannes où son film a été présenté en compétition et Storara, le chef opérateur italien
Storaro,
qui était membre du jury, nous a obligés de voir le film 3 fois. Tellement il était enthousiaste. Mais dans le jury, il était pas très apprécié. Et finalement, il a eu prix de la commission supérieure technique. Et là, c'était pas content quand il est monté sur scène, parce que le jury était déjà à cette époque assis sur scène, c'était déjà le nouveau palais, pendant la distribution des prix, il a fusillé les jurys du regard, mais ça, j'ai jamais vécu ça, c'était comme un vrai fusil pointé et la balle qui part.
Pour revenir sur cette question de la distribution, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi, en faisant venir Régine Vial au milieu des années 80, de devenir distributeur? C'est l'idée de ne pas dépendre des intermédiaires, de garder le contrôle jusqu'au bout de ce qu'on produit?
Oui, il y avait ça, bien sûr, mais ça m'intéressait. Si vous voulez, avant, c'est Gaumont ou 3A qui distribuaient nos films. Après que Gaumont ait abandonné Romère, je suis allée trouver Gérard Lebovici chez 3A, qui m'a ouvert les bras et qui a distribué tous les Romères après. Et c'était une... chez Gaumont et plus tard chez 3A, j'allais presque tous les jours voir l'équipe de distribution. Et j'attendais, ils discutaient d'un autre film qui sortait le même mercredi ou le mercredi d'après. J'étais en sandwich, enfin j'étais un numéro X parmi leurs grandes activités. Et ça me convenait pas parce que ça m'intéressait profondément de savoir ce que nous avons fabriqué, qu'est-ce que ça donne dans un village indien ou en Amérique du Sud, enfin partout dans le monde, parce que j'ai trouvé, selon le concept de Romère, que la liberté d'un auteur vient du succès. Donc c'est précieux le succès. C'est précieux de savoir où et combien de personnes payent un ticket pour aller voir un film. Et donc j'ai dit, on va essayer nous-mêmes. Et après, je me suis aperçue très vite que la production prend beaucoup plus de temps que la distribution. Régine peut distribuer 8 à 10 films par an, et moi je peux en produire un par an, si c'est Romère, après une longue expérience, ou... Ça prend 1 an et demi ou 2 ans de fabriquer un film en production. Donc on a ouvert les portes à d'autres auteurs aussi.
María Auxiliadora, Virgencita, Niña.
Virgencita linda. Esta olla. Y hacer las cosas buenas porque le da la plática a la trucha. Y si algún día me llegará a fallar, me llegará.
Esa vuelta tiene que ser ya, hermanito. Claro, lo hemos ido hace rato. De todas formas, tenemos que ser serios con esto, hermano.
Maldita sea.
Mira, tú digo.
Otra vez encendieron a bala estos piros. Son dos combos del barrio Santo Domingo Sabio.
¿Qué tal que no fueran del barrio Un Santo? Definitivamente esta raza se ha civilizado mucho en mi ausencia. Antes nos despachábamos a machete. Ahora con olor a pólvora.
La religion et les fusillades, on est dans la Vierge des tueurs de Barbet Schroeder. En 2000, Barbet Schroeder, l'autre fondateur des films du Losange, qui n'aime rien tant que les tournages extrêmement dangereux et les expériences limites. Donc là, il va filmer à Medellin, en Colombie, l'endroit le plus dangereux du monde au moment où il y tourne. Colombie qu'il connaît bien, puisqu'il y a passé son enfance. On doit un peu trembler quand même, comme productrice, quand on envoie toute une équipe dans un endroit aussi dangereux, Margaret Ménégoz.
Oui, c'est vrai, mais j'avais confiance en Barbet. Il s'est sorti de l'Angola quand il a fait Idi Amin Dada. C'était un endroit très dangereux aussi, et bien d'autres. J'avais confiance en Barbet, sauf qu'il y avait des précautions à prendre. Comme il est très grand, il a l'air d'un Américain, on l'a changé d'hôtel et ou d'appartement tous les deux jours.
Parce qu'on enlevait beaucoup les Américains à l'époque.
Oui, on les enlevait parce que, enfin bon, pour de l'argent évidemment. D'après un roman de Fernando Vallejo, qui avait été basé sur le fait qu'il existe une église à Medellin qui est dédiée aux sicarios, c'est-à-dire aux tueurs. Et donc, avant d'aller tuer quelqu'un ou après, ils allaient prier dans cette église. Et c'est cette histoire autour qu'il a bâtie. Barbet et Fernando ont adapté les livres. Et c'était vraiment un endroit extrêmement, extrêmement dangereux. Parce que c'était les sicarios, c'était des jeunes gens. Ils ne pouvaient pas voir, ils n'avaient pas d'uniforme, ils n'avaient pas de sigle, ils luttaient pas, ils n'avaient pas de signe de parti ils n'étaient pas reconnaissables. Et ils étaient armés et quand la cible qu'on leur avait désignée, ils la tuaient dans la rue.
Ce qui était périlleux aussi, c'est que le film est un défi technique pour l'époque. C'est le premier long métrage tourné en numérique haute définition. Et là, pareil, vous vous êtes engouffré dans ce pari sensible.
Ben oui, parce que c'est pendant le tournage, ça semble beaucoup plus pratique plutôt que de faire voyager des bobines 35 mm le négatif. Qui est quand même la chose la plus précieuse. On avait des cassettes, c'était pas très surveillé, pas très connu. C'était le premier film, mais on a beaucoup galéré parce que nous avons numérisé tous nos films qui étaient tournés en 35 et on les a réétalonnés, numérisés, enfin bon. Mais à l'époque, c'était le cinéma est fait soit à 24 images secondes, soit à 25 pour le passage à la télévision. Et là, c'était une vitesse un peu différente. Donc après, c'était très difficile de rattraper la vitesse du son avec les vitesses normales de l'exploitation de l'image. Mais c'est un des premiers films qui était tourné avec ce matériel révolutionnaire.
Sur le pont. D'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Allez, Anne. D'Avignon. le pont d'Avignon. On y danse, danse sur le pont d'Avignon.
Danse.
On y danse danse sur le pont danse d'Avignon. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond.
Le pont danse, danse tous, tous.
Vous écoutez France Culture, plan large sur et avec Margaret Ménégoz et Ntebin. Dernier extrait pour cet autoportrait que nous vous avons proposé de composer, Margaret Ménégoz. Dernier extrait, pas des moindres, hein, puisque c'est celui qui vous a valu votre deuxième Palme d'Or. Et deuxième Palme d'Or pour son auteur Michael Haneke. C'est bien sûr Amour avec Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant. Votre rencontre avec Haneke n'était pas évidente, Margaret Ménégoz, parce qu'au départ, vous n'aimiez pas beaucoup ces films, je crois savoir.
Ben, ils me perturbaient trop, j'avais peur de les regarder. Funny Games, j'ai pas pu. Le premier film de lui qui est passé dans le, à Cannes en compétition, avant il était à la quinzaine des réalisateurs régulièrement, j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. Et il a fait un film avec un autre en France, avec un autre producteur, et ils se sont pas entendus. Et l'agent de Michael Haneke lui faisait faire un casting de producteurs. Et puis il m'avait mis sur la liste, peut-être à cause de la langue allemande, peut-être je le connaissais pas spécialement, François Samuelson. Et donc, pendant le mixage de ce film précédent, il est venu dîner. Et j'avais un peu peur, mais enfin, par précaution, j'ai amené une jeune femme avec moi qui était allemande aussi, qui travaillait au Los Angeles. Et puis, on s'est assis à table et on a commencé à parler travail. Et on s'est très, très bien entendu. Et à la fin, il me dit, bon, peut-être on pourrait faire des choses ensemble. Et là, j'ai eu vraiment très, très peur. Et je lui dis, oh, je ne crois pas que je puisse passer 2 ans de ma vie dans la perversion, dans l'horreur, dans la torture. Alors, il a éclaté de rire en disant, mais pour l'avenir, j'ai peut-être des projets un peu plus ouverts. Et donc, l'avenir, c'était le film Caché avec Juliette Binoche et Daniel Auteuil. Mais est arrivé le 11 septembre, l'attaque sur le World Trade Center à New York, notamment entre d'autres cibles. Et il me téléphone en disant, écoute, je suis là si... devant mon ordinateur, en train d'écrire une histoire française, nombrilique, etc. Le monde va changer. J'ai un scénario qu'on n'a jamais pu produire, qui est dans mes tiroirs, qui s'appelait Le Temps du Loup. Et je l'avais lu à l'époque parce que son agent ou un avocat me l'avait envoyé d'Autriche, mais on se connaissait pas. Et c'était un scénario très long. Et je lui ai dit, mais oui, on va regarder, mais à condition de le raccourcir. Parce que ça durait un peu plus de, presque 3 heures. Et donc, il m'a dit, je vais regarder. Et en fait, il a coupé toute la première partie du scénario, l'histoire. Enfin bon, l'histoire commence quand la famille arrive à la campagne, dans leur maison, avec les provisions, et il y a quelqu'un d'autre, et le mari va être tué par ses occupants dans la maison, qui était un début très très fort. Donc on a fait Le Temps du Loup et après on a fait Caché.
Vous avez fait Le Temps du Loup, qui est un échec en salle.
Oui.
C'est compliqué de commencer avec un cinéaste sur un échec. On garde la foi. Après, je crois que vous avez dit quelque part qu'un cinéaste, ça peut se lâcher quand il a un succès, mais jamais quand il a un échec.
Oui, c'est vrai. C'est Gérard Lubici qui m'a appris ça. Il me dit, c'est pas grave de se séparer en succès. Mais si vous vous séparez sur un échec, vous perdez de l'argent à jamais que vous avez perdu. Donc, il faut s'obstiner quand c'est un échec. Quand un succès, tout le monde est content, tout le monde a bien gagné sa vie, il n'y a pas de problème.
Est-ce que c'est vrai qu'au film du Losange, vous fonctionnez comme un peu une société d'auteurs, c'est-à-dire que quand un film marche, vous gardez une partie de l'argent. Alors, il y a ce qui sert à financer les fonds propres des films du Losange, j'imagine, mais il y a un compte pour le cinéaste pour faire son film suivant.
Oui, il y a la moitié pour le cinéaste, parce que je trouve ça normal. Une fois que j'ai récupéré l'argent que j'ai investi dans un film, on partage moitié-moitié avec l'auteur. parce que c'est pas le producteur qui fait le film, c'est l'auteur qui fait le film. Donc c'est tout à fait normal. Au début, je me suis fait disputer par mes confrères en disant « tu ruines le métier ».
C'est le mauvais
quoi,
exemple.
Cette idée de faire 50-50 avec les auteurs, c'est n'importe quoi. Bon, on donne leur une petite prime, mais pas 50%. Et puis maintenant, ça c'est assez répandu dans la profession. Il y a beaucoup, beaucoup de producteurs qui font ça avec les auteurs.
Nei mato humanaim shevet achim gam yachat Nei mato shevet achim gam yachat Nei mato שבט אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד
Merci Margaret Ménégoz, on se quitte sur cette très belle musique de Zbigniew Preissner pour le Europa d'Agnieszka Holland que vous avez produit en 1990 après ce psaume qu'on a entendu chanter par le véritable Salomon Perel, l'incroyable héros de ce film tout aussi incroyable. Margaret Ménégoz, prix France Culture Consécration 2019, on va vous réentendre souvent sur notre chaîne, une série d'avoir nu et notamment en préparation, et puisque Régine Vial de l'autre côté de la vitre nous écoute. Si vous voulez voir des films distribués par les films du Losange, Les Particules de Blaise Harrison est en salle depuis le 5 juin. Oh les filles de François Armanet sortira le 3 juillet et il faudra attendre le 11 septembre pour découvrir La Jeanne de Bruno Dumont qui a beaucoup fait parler d'elle au Festival de Cannes. Quelques annonces de rétrospective en ce moment. Depuis hier, c'est la grande cinéaste portugaise Teresa Villaverde qui fait l'objet d'une intégrale au Centre Pompidou alors que son nouveau film Contre ton cœur sort enfin en salle mercredi prochain. Ce sera l'occasion de revoir ces œuvres vraiment magnifiques que sont notamment Os Mutantes ou Trans et de découvrir de nombreux inédits. Teresa Villaverde donnera une masterclass samedi prochain à 17h et j'aurai le plaisir et l'honneur de l'animer. On vous attend nombreux. Pedro Almodovar, sujet de notre plan large du 4 mai dernier, fait l'objet d'une rétrospective en 19 films de Pépi Lucibom et autres filles du quartier à Julieta. C'est en salle là encore à partir de mercredi prochain. Et puis le festival de Pingyao, créé par Jia Janquet et Marco Müller, où nous étions en octobre dernier, prend ses quartiers au MK2 Bibliothèque à Paris à partir de mercredi prochain, là encore, pour une sélection des meilleurs films des deux dernières années. Ne ratez pas Margaret Ménégoz, Three Adventures of Brooke de Zhu Yuan King, un film sous forte influence romérienne. Et puis encore le Sofilm Summer Camp qui investit Nantes à partir toujours de mercredi prochain avec en invité d'honneur John Landis, rétrospective et masterclass. Ça sera samedi prochain à 18h.
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de régimes différents du gouvernement de l'entreprise. On a parlé d'autorisation dans certains pays, on en a parlé en Yougoslavie, je connais mal les résultats de cette expérience, je ne suis pas certain qu'il soit concluant. Et je ne voudrais pas que nous soyons amenés un jour à faire à quelqu'un qui nous interrogerait sur le fonctionnement de l'autorisation cette réponse qui m'a été faite dans un pays socialiste où une expérience d'autogestion avait été tentée, que nous interrogions un cadre de ce pays, un cadre très, très loyal, mais aussi très lucide, je dois dire, sur la réussite de l'expérience, il nous a répondu, si vous voulez, les cadres de l'autogestion, je les tiens à votre disposition, ils sont actuellement en prison, on peut les en sortir pour venir servir votre pays si vous le souhaitez.
Je crois qu'il faut se garder de toute idéologie, parce que si on approche le problème de la démocratie dans l'entreprise, comme on approcherait en transposant les problèmes de la démocratie politique, on fausse complètement le problème. C'est en ce sens que je ne crois pas du tout que l'autogestion soit possible, parce que je ne vois pas comment les hommes peuvent s'autogérer. Il suffit d'avoir vécu un peu pour se rendre compte que dès que des hommes sont ensemble, ils ont besoin de trouver un chef.
Il suffit d'avoir vécu un peu pour se rendre compte que dès que les hommes sont ensemble, ils ont besoin de trouver un chef. Ça n'a sans doute pas beaucoup bougé. Le discours patronal depuis 40 ans, c'est la voix de son maître, co-signé par Nicolas Philibert et Gérard Mordillas. C'était en 1978, opus inaugural d'une œuvre documentaire fabuleuse et poétique, enfin restaurée et rassemblée en coffret DVD par Blackout. Nicolas Philibert aime à dire qu'il fait ses films avec des questions auxquelles les films n'apportent pas toujours de réponse. Et parfois, les questions restent entières une fois le film fini. Pour poser ces questions, le cinéaste est allé aussi bien au Louvre qu'au musée d'histoire naturelle et à la ménagerie du Jardin des Plantes, à la clinique de la Borde, au Pays des Sourds et même à la Maison de la Radio, dans une classe unique au milieu de la France pour être et avoir, et dernièrement pour de chaque instant dans une école d'infirmière pour filmer la transmission et son instrument, le langage, Anne Thébin.
Eh ben oui, je sais pas si vous vous souvenez, dans Le Quai des Brumes, il y a le Vigan qui joue le rôle d'un peintre, et il dit, moi, j'aime peindre les choses qui sont derrière les choses. Eh ben, on pourrait presque transposer ça à Nicolas Philibert. Il sait filmer les choses qui sont derrière les choses. Alors, ce coffret est extraordinaire, hein. C'est dommage qu'on ne soit pas proche de Noël, parce que c'était le cadeau idéal. Vous pouvez le thésauriser. Vous pouvez aussi partir en vacances avec, parce que les soirées où il pleut et vous êtes coincé chez vous, vous allez entrer dans un autre monde et visiter des continents inexplorés qui sont parfois dans votre propre ville. Et voilà, c'est ça le cinéma de Nicolas Philibert, qui se divise en plusieurs époques très distinctes. Au départ, il est assistant réalisateur, notamment de René Alliot. Il se destinait pas du tout au documentaire. Et c'est le côté activiste, justement, la voix de son maître, co-réalisé avec un autre assistant réalisateur qui, lui, va aller vers la fiction, qui va être comme un film militant, mais en donnant la voix au patron. D'ailleurs, après l'extrait qu'on a écouté, vous avez deux patrons qui sont pour l'autogestion, d'ailleurs. Donc, rétablissons un peu l'équilibre. Et ça lui plaît tellement qu'il va finir. Alors, il va y avoir une première époque qui est les films de commande, mais où il va déployer des moyens extraordinaires pour filmer un alpiniste qui s'appelle Christophe Profit. Et c'est la phase de sa carrière, des films de sport et d'alpinisme. Et d'ailleurs, il y a un making-of d'un de ses films d'alpinisme qui est extraordinaire. C'est-à-dire, Philibert, c'est un peu comme Agnès Varda, quand il fait un supplément DVD pour la sortie d'un de ses films, c'est un film de Nicolas Philibert. Ensuite, il va y avoir la révélation d'un auteur de documentaire avec des sujets choisis par lui-même à partir de La Ville Louvre. Tourné de façon quasiment, enfin, surréaliste, il le raconte lui-même. Quasi clandestine, ça c'est les années 90. Ensuite,
alors, on va écouter un extrait de La Ville.
Oui, allons-y.
Est-ce qu'il faut mieux montrer le beaucoup beaucoup de tableaux, et au risque que le public soit un petit peu perdu, ou est-ce qu'il faut faire vraiment une sélection, mais à ce moment-là, le résultat, c'est que la moitié des poussins peuvent en rester en réserve. Vous voyez, on est toujours un petit peu entre ces deux attitudes.
Oui.
Je crois qu'il faut faire et l'un et l'autre, c'est-à-dire essayer, quand on a l'astronome de Vermeer ou la bête Sabé, les montrer quand même dans une salle, de façon qu'il soit un petit peu évident que les gens se dirigent vers l'œuvre en question. Mais d'un autre côté, ne pas hésiter à montrer qu'on est riche. Donc vous verrez, les salles du second étage, là, enfin, c'est un petit peu moi qui m'en suis occupé. J'ai plutôt mis beaucoup de tableaux. Les poussins, ils y sont tous. Alors, ça veut dire, dans certains cas, il y en a qui sont en second rang. Ça veut dire que les gens qui sont un petit peu fatigués, qui sont dans le Louvre depuis deux heures, ils sont un petit peu effondrés et ils disent qu'il y en a trop. Mais je crois que le Louvre, c'est une espèce de grand, d'énorme livre qu'on consulte plusieurs fois. Enfin, on revient. Donc, il vaut mieux que le menu soit un petit peu abondant, que la carte soit abondante et qu'on choisisse avec plusieurs visites. C'est tout problème. Si on considère que le Louvre est fait pour les touristes, alors à ce moment-là, il faudrait mettre la Vénus de Milo, la Joconde, le Régent, presque isolé, et puis tout le monde serait très content. Les gens seraient ravis, il y aurait beaucoup moins d'efforts intellectuels à faire, marcherait moins, et pas de temps. Mais je crois qu'il faut qu'on montre les collections.
Je crois qu'il faut qu'on montre les collections, il faut voir les films de Nicolas Philibert, Anne Thébin.
Ah oui, absolument. Il faut les voir, il faut les écouter aussi. Alors parfois, c'est un peu difficile de trouver un extrait qui puisse passer à la radio, parce que quand il fait Le Pays des Sourds, évidemment, c'est quasiment que de la langue des signes pendant tout le film. Mais du coup, cette espèce d'harmonie entre un monde qu'on entend et puis une petite fenêtre qui s'appelle qui est celle de la caméra et qui est celle du regard de Philibert et qui va notamment, alors ça va être les années 2000, exploser avec le succès totalement inattendu d'un projet au départ très improbable au plan de la production qui est Être et Avoir. On parlait des trop grands succès puis des échecs avec les films du Losange. Après Être et Avoir qui est son plus grand succès, il va subir son plus grave échec commercial avec l'un de ses films les plus beaux, je trouve, et les plus personnels, qui s'appelle Retour en Normandie, qui est le seul film quasiment où il dit moi-je dans un film, où il reparle de son expérience d'assistant réalisateur pour René Alliot. Il va raconter aussi comment, à mon avis, l'expérience de faire le casting d'un film comme ça en allant trouver des paysans pour reconstituer une histoire de fiction, c'est presque les prémices de son regard de documentaire, puisqu'ensuite il va retourner voir tous ces gens qui des années après pour qui il a joué, enfin qui ont travaillé dans pour ce film, et puis il va faire aussi une introspection sur sa propre famille même. Enfin voilà, ce qui est intéressant dans ce genre de coffret, c'est aussi les petites perles qu'on trouve à la fin des voilà, on regarde les menus et on dit tiens, mais là il y a un film de 7 minutes qui raconte comment Philibert faisait ses films de montagne par exemple. Tiens, il y a un film qu'il a fait sur Maurice Baquet qui était violoncelliste, comédien, comique, star depuis les années Prévert, justement, on parlait de Prévert tout à l'heure, mais qui était aussi un alpiniste et un sportif incroyable, un cycliste, et qui avait tenté en pionnier dans les années 50 d'escalader l'Aiguille du Midi, et puis qui est dans le massif du Mont Blanc, l'un des plus difficiles à gravir, et qui a réédité cet exploit en 1977 tout en illustrant enfin Philibert montre cet exploit, puis il l'illustre avec évidemment une bande son qui est tirée des exploits violoncellistes et de chanteurs de Maurice Baquet.
Rémi, Rémi, la 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 ré, la do mi ré 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 ré ré. Oh, c'est pas croyable.
Mais si, c'est croyable, ce solo chanté de Maurice Baquet qui s'accompagne au violoncelle. On le trouve dans le comeback de Baquet, une des raretés de Nicolas Philibert qu'on découvre dans ce coffret 12 DVD, une vingtaine de courts, de moyens, de longs métrages accompagnés de très riches bonus et d'un livret tout aussi riche, c'est chez Blackout. Merci beaucoup Ntebin. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alex Dang. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina, enfin de retour parmi nous. La semaine prochaine, Plan Large sur John Crawford, monstre hollywoodien portraituré dans un formidable petit livre par Maxime Donzel. Il sera en compagnie de la critique Muriel Joudet et de Charlotte Garçon, qui nous parlera également du journal d'un maître d'école, chef-d'œuvre de Vittorio De Sette, qu'a sans doute vu Nicolas Philibert. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard. I'm going to go to the hospital.
Merkel.